Les manipulateurs se dissimulent souvent sous différents masques. Ils sont aussi passés maîtres dans l'art de modifier ces faux visages à volonté, selon la personne, la situation ou le but visé. Le manipulateur dit « sympathique ». Ce premier masque est de loin le plus fréquent. C'est également le plus dangereux, parce qu'il dissimule parfaitement le jeu du manipulateur. Il est souriant, extraverti, bon vivant, et à certains moments sait se montrer attentif aux autres. Il parle beaucoup et sans difficulté. Il se positionne, prend sa place. La place que vous occupez devient naturellement la sienne. Il offre l'image d'une personne bien dans sa peau, à qui nous aimerions ressembler et dont nous souhaiterions nous faire aimer. Le personnage que joue Michel Piccoli dans le film « Une étrange affaire » de Pierre Granier-Defer est un exemple frappant de ce type de personnalité. Il nous est difficile d'admettre qu'il existe un manipulateur relationnel derrière cet être fort charmant, paré d'autant de qualités agréables. D'où le danger. Le processus de manipulation est suffisamment discret pour se noyer au sein d'un autre complexe d'attitudes. Ces dernières peuvent être parfaitement plaisantes, du moins dans leur forme superficielle. Avez-vous remarqué qu'il nous est plus facile d'accéder aux désirs et aux besoins d'une personne qui se montre sympathique? Il est aussi plus difficile de refuser quelque chose à un ami, en général, qu'à un inconnu. C'est ainsi que la plupart des manipulateurs sauront utiliser ce simple paramètre pour augmenter leur influence sur autrui. Un phénomène identique existe chez les animaux. Certains types de poissons redoutables utilisent le mimétisme d'autres espèces plus courtoises pour parvenir à leur objectif. Prenons l'exemple de la blennie. Examinons tout d'abord le rason, ce poisson nettoyeur d'un gros poisson d'une autre espèce. Il est appelé le poisson associé. Nettoyeur et nettoyé se comprennent à l'aide de quelques mouvements spécifiques qui deviennent des codes de communication entre eux. Ils se font mutuellement confiance et ainsi, le gros poisson, nullement méfiant, laisse le rason s'approcher. Or, la blennie, Aspidontus teniatus, imite à la perfection le rason. Elle copie les déplacements de celui-ci dans ses moindres détails, bien que ce genre de mouvement ne soit pas typique de sa famille. Camouflée de cette manière, la blennie trompe sa proie, le gros poisson, et lui prélève des morceaux de nageoire et de branchies. Les facteurs engendrant la sympathie. Comment se rend-on sympathique? Un certain nombre de facteurs y contribuent. Depuis une quarantaine d'années, les sociologues se sont penchés sur cette question. Ils ont ainsi découvert comment de parfaits inconnus avaient le pouvoir de nous arracher un « oui » en quelques minutes, uniquement parce que nous les trouvions sympathiques. C'est le cas de merveilleux vendeurs, par exemple. Les sociologues ont noté, entre autres, que l'apparence physique, la similarité, avoir des points communs avec l'acheteur, certaines familiarités, les flatteries, les associations positives à leur contact, conditionnées à un bon moment passé ensemble, aux personnes célèbres qu'elles connaissent, etc., avaient une influence certaine et cependant inconsciente chez la plupart d'entre nous. Un bon pourcentage, 60% environ de manipulateurs, se donne comme règle de conduite de créer des relations d'amitié le plus rapidement possible, surtout dans un contexte purement professionnel, ou de faire en sorte qu'au premier abord, nous les trouvions sympathiques. Ils sont souriants, très attentifs, généreux, font de petits cadeaux ou rendent des services et utilisent la flatterie. La différence entre le manipulateur dit sympathique et l'individu vraiment sympathique. Évidemment, il ne s'agit pas de se méfier de chaque personne que nous trouvons sympathique. Heureusement, il existe de nombreux individus réellement affirmés qui n'ont pas besoin d'artifices ou de manigances pour être appréciés. Ils savent exprimer clairement et sincèrement leurs opinions, leurs désirs ou leurs sentiments. Les personnes affirmées respectent aussi les désirs, les besoins, les sentiments et les opinions des autres. Rien ne nous fait sentir qu'avoir des besoins, des opinions ou des sentiments différents des leurs soit illégitime, mal vu, dévalorisant ou culpabilisant. L'individu affirmé est bien dans sa peau, sans faux-semblant, souriant, avenant, respectueux et d'humeur égale. Il est limpide dans son esprit et son attitude. Il ne crée pas sans cesse de mauvaises surprises et instaure une stabilité dans ses relations professionnelles et sociales. Il ne cache rien de sa personnalité et n'a aucunement besoin d'écraser les autres pour se sentir valable. L'individu affirmé ne nie point ses défauts, même s'il n'est pas toujours aisé de les avouer et de les accepter, et reconnaît tout autant ses qualités. Cependant, il n'en fait pas une démonstration constante dans le but de prouver à autrui qu'il lui est supérieur ou que celui-ci lui est inférieur sur de multiples plans. Le fait d'expliquer ce qu'une personne au caractère affirmé est ou n'est pas vise à mieux faire comprendre les comportements de la personne manipulatrice. Il est clair que, au début d'une relation, un manipulateur au masque sympathique ne se montrera pas très différent d'un individu réellement affirmé. Autrement dit, il nous faut côtoyer assez longtemps un manipulateur au masque sympathique pour découvrir progressivement ce qu'il cache et ce qu'il recherche réellement. Les plus passifs et naïfs d'entre nous peuvent, hélas, ne jamais le découvrir. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à leur jardin émotionnel et n'ont pas pris conscience de leurs besoins personnels. Seule cette connaissance produit le choc nécessaire. Or, des millions de personnes vivent selon le schéma inverse. Il leur est plus important de répondre aux besoins et aux demandes des autres plutôt qu'à leurs propres besoins. C'est parce qu'elles nient l'existence de ces derniers que la frustration et le sentiment négatif deviennent supportables. La soumission à l'autre ne peut se faire que s'il y a refoulement puis négation de son propre ego. Ce sont les mêmes qui, à la question « Qu'est-ce que tu veux faire cet après-midi ?» répondent « C'est comme tu veux ». Si nous réitérons la question pour les amener à exprimer ce dont elles ont, elles, vraiment envie, elles répondent sincèrement « Je ne sais pas ». À force de satisfaire essentiellement les demandes et les besoins des autres par peur de déplaire, elles ne reconnaissent plus leurs véritables sentiments et ceux de leur entourage. Ces personnes passives sont donc incapables de repérer un manipulateur derrière ce masque de la sympathie, et cela pendant 10 ou 20 ans. Qu'elles n'aient pas conscience de la souffrance émotionnelle créée par ce personnage de leur entourage est une chose. Qu'elles n'en souffrent pas en est une autre. Or, elles n'osent pas parler de leur détresse à quiconque et dénient le plus souvent leur souffrance. Ce sont des individus qui expriment rarement ce qu'ils ressentent. Et pour cause, il leur arrive très souvent de ne pas le savoir eux-mêmes de façon précise. Ces qualités existent. Sans que nous soyons particulièrement passifs ou résignés, un autre facteur peut nous aveugler, le côté sympathique du personnage. Ce que je décris dans cet ouvrage ne reflète que l'aspect manipulateur. 80% des manipulateurs relationnels, et principalement les sympathiques, ont aussi beaucoup de qualités, comme tout être humain d'ailleurs. Comment pouvons-nous distinguer les vraies qualités des fausses qualités? Avec le temps. Si nous vivons ou travaillons avec eux, les failles et le mensonge vont progressivement nous apparaître comme des évidences. Ils peuvent être difficiles à accepter quand ils concernent une figure d'autorité comme un parent ou un supérieur hiérarchique. Combien de fois secrétaires et autres collègues ne comblent-ils pas les lacunes graves d'un responsable jusqu'au moment où ils ne peuvent que constater son incompétence? Cela est d'autant plus difficile à vivre et à rapporter au supérieur du responsable en question quand celui-ci est persuadé de la compétence de ce dernier. De très nombreux propos témoignent de ce cas, d'une fréquence plus grande qu'on ne le croit. Avez-vous d'ailleurs remarqué que le terme le plus courant pour désigner un supérieur hiérarchique est « responsable » ? Pourquoi devrions-nous donc nous attendre à une réalité inverse ? La plupart du temps, la question ne se pose pas jusqu'au moment où trop, c'est trop. Revenons aux vraies qualités du manipulateur au masque sympathique. Il est le plus souvent extraverti, gai, pas toujours, tout dépend du public, parle avec aisance et souvent trop, se montre par moments attentif aux autres, gentil, actif, vivant et souriant. Il s'avère efficace, qualifié et intelligent.